L'Iran a de nouveau convoqué l'ambassadeur du Danemark après une nouvelle profanation du Saint-Coran. Le corps des gardiens de la révolution islamique répond au déploiement de deux navires de guerre américains en mer Rouge. Sommet de Jeddah, pour Moscou, le plan de paix de Zelensky ne fera que prolonger les hostilités. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran convoque une nouvelle fois l'ambassadeur du Danemark à Téhéran sur la question de la profanation répétée du noble Coran à Copenhague. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré lors de sa conférence de presse hebdomadaire que l'ambassadeur du Danemark à Téhéran avait été convoqué au ministère des Affaires étrangères au sujet des actes de profanation répétés à l'encontre du Saint-Coran. Il lui a été demandé de faire parvenir à son gouvernement la protestation officielle de l'Iran, a déclaré Kanani, ajoutant que l'Iran attendait du Danemark qu'il prenne des mesures responsables afin d'éviter que de tels actes de profanation ne se reproduisent. Ceci intervient alors que le noble Coran a de nouveau été profané devant les ambassades de 5 pays musulmans à Copenhague par un groupe extrémiste la semaine dernière. Le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé un avertissement aux États-Unis après que sa marine a annoncé l'arrivée de milliers de ses militaires en mer Rouge. Le porte-parole du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Ramezan Sharif, a déclaré que la République islamique d'Iran était suffisamment puissante pour répondre à tout acte de méfait des États-Unis dans la région. Par ailleurs, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que les États riverains du Golfe Persique avaient le potentiel de maintenir la sécurité dans la région sans aucune ingérence étrangère. Lundi, la 5e flotte de la marine américaine a déclaré que les membres du corps des Marines se sont rendus dans la région sur deux navires de guerre par le canal de Suez dans le cadre d'un déploiement annoncé d'avance. Le premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré que Tokyo soutenait les pourparlers sur la relance de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, ainsi que la poursuite d'une interaction positive entre la République islamique d'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette remarque fait suite à une rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, en visite officielle à Tokyo depuis dimanche soir, où il a rencontré de hauts responsables japonais. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a rencontré lundi matin à Téhéran l'assistante du ministre iranien des Affaires étrangères, chargé des affaires politiques, Ali Borelikhani. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a annoncé lors de sa conférence de presse hebdomadaire, lundi, l'arrivée du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, à Téhéran, tout en notant l'importance des visites diplomatiques mutuelles basées sur le désir des hauts responsables russes et iraniens. Kanani a évoqué la réunion importante qui se tient mardi, organisée par le Centre d'études politiques et internationales du ministère iranien des Affaires étrangères, en présence des deux parties iraniennes et russes. Suite à la réunion des 5 et 6 août en Arabie Saoudite d'un sommet dédié au conflit en Ukraine, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a dénoncé les propositions ukrainiennes et a rappelé les principes préalables à tout accord de paix. Aucun des 10 points de la formule de paix de Zelensky ne vise à chercher une solution négociée ni diplomatique à la crise, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors d'un point de presse le 7 août, commentant le sommet de Jeddah. L'ensemble se présente comme un ultimatum dépourvu de sens imposé à la Russie, qui vise en fait à prolonger les hostilités, a-t-elle ajouté. Accueilli par l'Arabie Saoudite les 5 et 6 août à la demande de l'Ukraine, le sommet de Jeddah portait sur la résolution du conflit en Ukraine. La famille du détenu palestinien atteint d'un cancer affirme que le refus d'Israël de lui accorder une libération anticipée est une condamnation à mort. La famille de Walid Daka affirme qu'un tribunal israélien a rejeté un appel pour sa libération malgré la détérioration de la santé de l'homme de 60 ans. Ils ont dit qu'il n'avait pas reçu de traitement approprié à la clinique de la prison. La famille a appelé tous les partis politiques à soutenir la campagne dans le monde arabe et dans le monde entier pour sa libération. Daka est en prison depuis 38 ans. Il souffre d'un cancer de la colonne vertébrale en plus de problèmes pulmonaires et rénaux et de plusieurs autres problèmes de santé. Près de 2 semaines se sont écoulées depuis le coup d'État militaire au Niger qui a abouti à la détention du président Mohamed Bazoum. La junte militaire qui a pris le pouvoir chercherait maintenant à ouvrir le dialogue avec le bloc régional ouest africain qui a menacé d'une action militaire si le président déchu n'était pas réintégré. Oumoudou Mahamadou, premier ministre déchu, a déclaré que les dirigeants militaires du Niger avaient exhorté une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à revenir pour les pourparlers. Une délégation de la CEDEAO est arrivée dans la capitale Niamey jeudi dernier, mais il n'a pas passé la nuit comme prévu et n'a rencontré ni Bazoum ni les auteurs du coup d'État. Et enfin, la probabilité d'une guerre ouverte entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide continue d'effrayer Khartoum. Des tirs de l'artillerie lourde sont tombés sur des zones densément peuplées de la capitale soudanaise et des zones voisines. Cela a provoqué l'évacuation de civils d'une zone proche de Khartoum. L'armée a mené des frappes aériennes et tiré des obus sur un pont pour couper l'accès à la zone. Le pont était utilisé par les forces de soutien rapide pour se ravitailler depuis l'autre côté du Nil. Le conflit au Soudan a jusqu'à présent tué près de 4000 personnes. Selon l'Organisation des Nations Unies, il a déplacé plus de 3,3 millions de personnes et plongé des millions d'autres dans la famine. L'Organisation mondiale de la santé affirme qu'une grande partie de l'infrastructure déjà fragile du pays a été détruite. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères a déclaré que 67 pays et 20 représentants d'organisations internationales ont été invités à participer au sommet des BRICS en Afrique du Sud. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a annoncé lundi 7 août que le président sud-africain avait invité un total de 67 dirigeants de pays et 20 représentants d'organisations internationales au sommet des BRICS qui se tiendra du 22 au 24 août, le président français n'y a pas été pourtant convié. Dans un communiqué, Pandore a déclaré « Emmanuel Macron, aucune invitation est mise à cet égard », ajoutant que l'Afrique du Sud a invité 67 dirigeants d'autres pays à assister aux réunions des BRICS Africa et BRICS Plus. Les leaders couvrent tous les continents et régions du Sud global, est-il précisé dans le communiqué qui a par ailleurs souligné que le président sud-africain a également invité 20 personnalités, parmi lesquelles le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le président de la Commission de l'Union africaine, le président de la Nouvelle Banque de développement des BRICS, les présidents et les chefs de secrétariat des communautés économiques régionales, les institutions financières africaines et le secrétaire général du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine et la PDG de l'Agence de développement de l'Union africaine. À l'heure actuelle, seuls 34 pays ont confirmé leur présence au sommet, a déclaré le ministre sud-africain des Affaires étrangères. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, l'expansion des BRICS renforcera le groupe et le sujet sera traité lors du prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud. Nous pensons que sous une forme ou une autre, l'expansion des BRICS contribuera au développement et au renforcement ultérieur de cette organisation. La forme, l'étendue, c'est exactement ce dont nous discuterons lors du prochain sommet, a expliqué aux journalistes jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le groupe BRICS examinera l'admission de nouveaux pays dont l'Argentine, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, a ajouté le porte-parole du Kremlin. L'élargissement des BRICS est un sujet de discussion. Nous ne pensons pas que nous devrions prendre de l'avance et déclarer notre position avant une discussion parmi les pays membres des BRICS. En tout cas, nous parlons de pays avec lesquels nous avons une interaction assez constructive dans divers domaines, a-t-il déclaré. Bien que l'introduction d'une monnaie unique BRICS soit désormais irréalisable, Peskov a déclaré que cela ne signifie pas que le sujet ne devrait pas être abordé par les pays membres des BRICS. Il n'est guère possible de le mettre en œuvre, mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas nécessaire d'en discuter. Les discussions à ce sujet, bien sûr, se poursuivront, a-t-il déclaré aux journalistes. Par ailleurs, le premier ministre indien, Narendra Modi, a déclaré le même jour qu'il participerait à la conférence des BRICS qui se tiendrait en Afrique du Sud. Par ailleurs, selon le service de presse de Lula da Silva, le président brésilien assistera également personnellement à la réunion des dirigeants des BRICS qui se tiendra à Johannesburg en Afrique du Sud du 22 au 24 août.